Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanré, présenté par son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons Jean-Pierre Montal, écrivain, éditeur et leader du groupe Les Mercuriales, qui sort cette semaine son deuxième album intitulé L'exil loin des slots, accompagné de son batteur Sam Ramon, producteur en partie du disque. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sam.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Pierre, comment sont nés les Mercuriales ?
Comment sont nés les Mercuriales ? Je crois que c'est pas mal que Sam soit là, justement, qui joue de la batterie. C'est parce qu'en fait, c'est une histoire qui est une histoire, on va dire, amicale, mais surtout une histoire d'obsession pour la musique. On ne faisait que parler de musique, tout le temps.
Tout le temps, oui. Oui, c'est notre principale occupation, d'ailleurs.
Alors, on parlait de disques qu'on avait aimés, de disques qu'on n'aimait pas, de disques qu'on réécoutait et qu'on se mettait à aimer sur le tard, enfin voilà. Et puis, à un moment, très naturellement, on est aussi arrivé à un âge où on pouvait se passer des influences, quoi. On avait écouté tellement de musique, on en parlait tellement qu'on a eu la possibilité, enfin le sentiment qu'on pouvait faire une musique qui était un peu au-delà des influences de ce qu'on aimait. Donc on s'est lancé avec Thomas Florin à l'époque en trio, ce qui est un des aspects, moi je trouve, les plus excitants du groupe, outre sa musique et le plaisir qu'on a à la faire, c'est qu'il y a un petit côté aussi intergénérationnel. Thomas est beaucoup plus jeune que nous, Stan aussi, qui est au saxophone, Sophie aussi, Guillaume qui nous aura rejoint à la basse aussi, et Fred qui est à l'autre guitare à notre âge. Mais oui, il y a un mélange qui se sent assez dans la façon, on écoute tous du rock, on écoute tous du jazz et de la soul, ça c'est la base. Mais à côté de ça, on a tous des goûts qui sont un peu différents de quelqu'un comme Thomas, beaucoup écouté de rock des années 2000. Moi j'ai beaucoup aimé les Strokes, mais je suis toujours passé à côté de certains groupes de garage de l'époque. Donc voilà, on a mixé ça. Mais le point de départ, sincèrement, ce sont des discussions sur la musique.
Sam ?
Oui, je rejoins tout à fait ce que dit notre camarade Montal. En fait, nous avons débuté entre 2014 et 2015. C'était assez informel, on va dire. Pas de nom de groupe, avec des compositions chantées majoritairement en anglais. Voilà. Et puis, il y a eu ce premier morceau chanté en français, Je pratique le tir, qui d'ailleurs est sur notre premier album, hein, Les choses m'échappent. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose vraiment 100% français.
Le rock, c'est une passion de jeunesse qui n'est jamais passée.
Jamais. Mais moi, je dois tout. On va éviter le mélodrame. Je dois énormément au rock. Rien ne m'intéressait dans la vie, rien, si ce n'est le rock. Et le rock m'a amené à d'autres groupes, à une multitude de groupes, puis à des films, puis à des livres. Donc c'est la porte d'entrée. J'ai jamais lâché. De toute façon, je ne connais pas. Je mets la musique au-dessus de tout. Je trouve que c'est un art complètement mystérieux, immatériel, qui va toucher les gens d'une façon très particulière. Donc vraiment, ça n'est jamais passé. Et j'en ai la certitude maintenant. Dieu merci, ça ne passera pas.
Sam, c'est le cas pour vous aussi ?
Moi, j'ai commencé par ce qu'on appelle un peu bêtement la musique classique, parce que c'était pas la période classique qui m'intéressait le plus, mais plutôt la période contemporaine. J'ai pratiqué le hautbois pendant quelques années, et puis oui, j'avais des parents qui écoutaient beaucoup de musique, donc ça m'a aidé. On avait toujours de la musique à la maison, des disques de jazz, du classique, et un petit peu de rock, vraiment pour... également beaucoup de ce qu'on appelait la pop musique dans les années fin 60, début 70. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était non pas classique et rock, mais le disco. Voilà, la musique de club.
D'accord.
Ça m'a tout de suite percuté. 77, 78, quand j'ai eu à peu près 10 ans, ça m'a vraiment, de la summer, ça m'a retourné.
Encyclopédie vivante de disco, Sam, réellement.
Tout finit bien, puisque tout finit.
Oui.
C'est là assez de sagesse pour toute une vie. Le rock est éternel.
Oui, c'est vrai. Mais quand même, on est obligé de reconnaître dans une vie que les choses se terminent. Alors, ça donne du poids aux choses qui semblent ne pas se terminer, je suis d'accord. Mais je crois qu'il faut avoir quand même une idée de la fatalité en tête. L'homme connaît sa fin, il sait qu'il va finir, qu'envisager la fin. C'est marrant, c'est un thème, il y a très longtemps, dans un autre groupe, j'avais écrit une ligne qui était également sur le même thème. Dès le début, il faut penser à la fin. Voilà, c'était ça le début de la chanson. Donc vraiment, visiblement, j'ai ressassé un peu ce thème-là. Mais je pense qu'il y a une grande idée, qui n'est pas de moi, hein, alors là, mais une grande idée philosophique qui habite tout le monde. Et je trouve que, effectivement, à un moment, de toute façon, tout va se finir. Même ma vision de la musique va se terminer avec moi. Enfin voilà, on emporte quelque chose. Bon, ça nous emmène un peu loin, je le reconnais, mais disons que je me dis que la finitude, c'est quand même, je veux dire, quand même, quelle créature bizarre que l'être humain qui sait qu'il va finir.
Les mots que je viens de citer ouvrent l'album, hein, vous chantez oui. Ces paroles-là. Car on n'échappe pas au commerce des hommes, c'est là une bonne nouvelle en somme. À un moment donné, même le pire des chagrins ronronne. Alors le chanteur de ces paroles est-il un élégant désespéré ?
Pas plus que tout le monde. Non, c'est vrai, ouais, j'ai l'impression que tout le monde est un peu... Enfin, tout le monde charrie sa dose de désespoir, mais pas plus que tout le monde. Non, en revanche, je crois que dans les textes français, c'est quelque chose d'assez particulier à faire sur de la musique pop-rock, on va dire, pour le faire simple. C'est assez particulier. Donc, ça vous emmène très vite, je trouve, vers plusieurs travers qu'il faut essayer de contourner. Et avec ce début, je m'étais dit, intérieurement, j'avais l'idée. Je savais comment je voulais attaquer, puisque ça complétait, c'était comme un chapitre supplémentaire à mon roman « La face nord ». Et donc, je me suis dit, je vais attaquer comme ça. Mais je ne voyais pas très bien comment le faire. Et à un moment, ça va répondre à votre question, je me suis dit, mais je ne trouvais pas les phrases, le rythme avec la musique. Et j'ai eu l'idée de dire, et si c'était comme des maximes de La Rochefoucauld, quoi, des maximes de moraliste quoi, qui s'enfilent comme ça. Et en fait, ça a tout débloqué. Voilà.
Le dandisme, est-ce que c'est la dernière arme contre le nihilisme ?
Moi, je ne crois pas du tout au dandisme et je ne crois pas du tout au nihilisme. Donc, voilà.
Très bien, parce que ça revient souvent l'adjectif dandy à votre propos.
Que je ne comprends pas du tout, honnêtement.
D'accord.
D'ailleurs, il y a une phrase oui. Dans le morceau avec Gilles Kaplan.
Il ne reste plus que des dandys.
Il ne reste plus oui. Que des dandys. Bon, si tout le monde est dandy, il n'y a plus de dandy.
Il n'y a plus de dandy. Puis on en a fait une sorte de marque publicitaire. Et puis vous regardez sur il suffit qu'un acteur porte un costume, on dit, et des allures de dandy. Enfin non, sincèrement, je n'ai jamais compris ce truc. Je pense même qu'il y a un piège dans tout ça. Alors pas pour moi personnellement. Il y a une sorte de facilité qui est devenue une facilité globale et une facilité de langage. Et ça, il faut toujours faire attention.
On peut aller un peu plus loin que cette facilité de langage. On peut considérer que le dandysme, c'est quelqu'un qui a intégré toutes les modes, tous les mouvements de création, tous les grands mouvements artistiques, et qui estime que l'histoire est close et il n'y a plus qu'à jouer avec les figures du passé.
Non, j'ai pas l'impression. Pour moi, la figure du dandysme total, c'est Georges Brumel. Il n'y a pas au-dessus. Même Barbé d'Aurevilly a consacré un essai sur la figure de Georges Brumel et a dit qu'il n'y peut pas y avoir de dandysme déjà en France. On a le sang chaud, il faut avoir le sang froid. Il faut que les alcools, les spiritueux puissent justement réchauffer cette espèce de lymphe froide. Il faut une froideur. On n'est pas obligé de connaître en fait le monde ni ce qui nous entoure. Il y a quelque chose qui nous échappe en fait dans la définition même du dandysme.
En tout cas, dans notre cas, je vois pas.
Non,
je
non plus,
je
peux
pas,
là,
je
pas,
peux pas
tout,
dire
pas
mieux.
Tout,
j'aimerais bien dire, okay, je vous assure, Fred, j'aimerais bien dire quelque chose d'intelligent.
Non, mais c'est comme j'ai lu beaucoup cet adjectif à votre propos et que.
Quand on va voir nos concerts, par exemple, je crois pas qu'on ait une impression de dandysme. Tout le monde est à fond, ça sue, ça joue. Oui.
On peut penser à vos influences aussi. On l'a dit à propos de Brian Ferry.
Oui, alors. C'est vrai. Que on pourrait, par le jeu des capillarités, on pourrait arriver à des références qui sont considérées comme des représentants du dandysme. Brian Ferry, par exemple. Mais moi, ma passion pour Brian Ferry, très sincèrement, elle ne vient pas de sa garde-robe ou de son attitude. La passion pour Brian Ferry, c'est à un moment, c'est ce groupe, Roxy, et cette voix très étrange, quasiment impossible à aimer et qui petit à petit devient aimable. Après, je ne vous dis pas le contraire, je ne veux pas prendre une posture. Les vêtements, c'est pas rien dans le rock, il se passe quelque chose, il y a quelque chose autour de ça. Je vais pas faire le type qui s'y intéresse pas du tout. Moi, je pense d'ailleurs que les gens qui s'intéressent aux vêtements, c'est souvent les gens les plus modestes, contrairement à ce qu'on pense, c'est les gens qui veulent arranger leur apparence. Alors, c'est vrai que si on regarde bien Brian Ferry, si on regarde les photos du début, on voit à quel point c'est pas du tout le beau gosse qui est maintenant. C'est que Brian Ferry, il a beaucoup travaillé pour devenir cette espèce de leader de groupe. Alors là, ça pourrait presque être l'aspect intéressant du dandysme ou de l'élégance, c'est de se dire, j'invente le personnage qui me permet de me sauver.
Ce qu'on a beaucoup vu dans le rock anglais, c'est en fait quand les musiciens sont d'origine prolétaires qui viennent du peuple, eux s'habillent très bien. Et quand ce sont des bourgeois, des fils de bonne famille, ils emploient beaucoup d'énergie à mal s'habiller, en tout cas s'habiller crade, sale,
oui,
dégradé.
C'est
donc c'est marrant cette inversion.
Et socialement aussi aujourd'hui. C'est fou d'aller dans les beaux quartiers et de voir comment les jeunes des beaux quartiers s'habillent le plus mal possible, si j'ose dire. Enfin, c'est leur goût, donc le mal. Mais disons avec le plus de négligé possible. Alors que oui, c'est vrai, il y avait plein de mouvements entre les mods avec clean living under difficult circumstances. Enfin voilà, il y avait une élégance comme ça. Et ça, je trouve, c'est très, très anglais, parce que les Américains, il y a un sens du négligé chez les Américains, un peu, dans les groupes de rock, en tout cas. Mais c'est très anglais, et c'est vrai que, alors moi, en tant que jeune fan de rock, ça m'a beaucoup marqué, même si je pense qu'à la fin, au bout du bout, je suis plus américain, quand même.
Vous êtes un grand fan de Bob Dylan ?
Ah bah voilà.
Non mais le mot est lancé, l'émission va être gâchée, je vais tenir 30 minutes.
Parce justement, il y a un point commun avec Brian Ferry, avec les musiciens qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire Brian Ferry, David Bowie, Lou Reed, ils ont tous un point commun, ce sont on peut dire des fans de Bob Dylan.
Bah oui, moi c'est devenu avec les années vraiment obsessionnel. Je pense que c'est un des plus grands artistes qui soit, vous tout confondu. Je pense que son histoire est complètement hallucinante, que les différentes périodes sont passionnantes. Quand les gens me disent je m'arrête en 69, c'est généralement la phrase qui me fait dire intérieurement pauvre homme, vraiment. Mais bon, parce que toute période n'est pas absolument fascinante. Et alors, c'est vrai que c'est quelqu'un en plus qui est assez génial. C'est génial d'admirer Dylan parce qu'au bout d'un moment, on sait qu'on ne pourra pas l'imiter. La voix est tellement bizarre, les textes ont tellement changé, il a fait des trucs nuls, des trucs géniaux, on ne sait jamais comment il a fait. Au bout d'un moment, c'est une admiration, ça ne va pas vous envahir. C'est différent avec Lou Reed. Moi, j'ai eu des tentations vers 18-20 ans, je voulais chanter comme Lou Reed et j'étais un bon perroquet. Mais chanter comme Dylan, on aurait l'air complètement bête. Donc il est au-dessus de toute imitation possible.
Il représente quelque chose qui doit peut-être vous toucher aussi, c'est cette union entre le texte et la musique, entre la littérature et le rock. Il a reçu un prix Nobel de littérature, il faut le rappeler.
Oui, bah, moi, Sam en parlait tout à l'heure, on a commencé en anglais. Moi, j'ai commencé à faire des groupes comme Sam quand on était plus jeune, ils étaient généralement tous en anglais. Ouais. Bon, le rock et l'anglais, il y a un mouvement naturel qui se crée, et puis comme ça, on a l'air moins bête. Voilà. Mais très vite, j'ai eu un sentiment, même en jouant dans des groupes que j'aimais beaucoup, et en anglais, j'ai eu le sentiment que c'était pas ça qu'il fallait faire quand même, que ça collait pas, il fallait chanter dans sa langue. Alors quand vous êtes français, bon bah ça pose une grande question. Qu'est-ce que ça va être que du rock français? Rien que l'expression rock français là a dû vous faire frémir tous les deux, ça évoque souvent de mauvais souvenirs quand même.
Ouais, il y avait quand même... Oui, quelques-uns.
Ouais, il y a quelques passages difficiles. Ouais, Donc il faut trouver sa voix. Moi je pense qu'un truc qui a fait beaucoup de mal aux paroles françaises, mais c'est mon point de vue parce que C'est cette tentation immédiate du poétique, de la poésie. Il faut trouver immédiatement une image, quelque chose qui ne soit pas narratif, contrairement, par exemple, aux grands paroliers de country, aux grands paroliers américains, ou même aux grands paroliers de soul. Je trouve qu'on ne parle pas assez des paroles de soul, qui sont très simples, très directes, mais souvent très, très prenantes. Et donc, nous, on commence généralement par quelque chose de très poétique, et ça, je trouve que ça emmène tout de suite vers une surenchère du poétique. Alors, ça, moi, j'y suis complètement insensible. Après, il y a une autre catégorie de chansons qui sont celles où on trouve immédiatement une phrase, un slogan, quelque chose qui marque tout de suite les esprits. Ça, je suis très admiratif de ça, mais j'en suis incapable. J'aurais adoré trouver les tesseras chauds dans les t-shirts, dans les maillots. Je trouve que ça, il suffit d'avoir trouvé cette phrase. Et bon, fantastique. Et deux sur une banquette, et toi dans le hall de l'hôtel. Rien que cette image, on se fout de l'histoire et d'ailleurs Marie et les garçons répètent cette phrase.
C'est instantané.
C'est instantané, on voit. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Mais en France, il y a aussi cette tentation et ce poids du littéraire. Alors moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça dans les morceaux de rock. Donc pendant très longtemps, j'ai essayé d'écrire en français. Mais j'avais beaucoup de textes que j'ai gardés dans mon tiroir, hein, énormément. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on en est resté à ce que je viens de vous décrire. Regardez Feu Chatterton, pour moi, c'est inécoutable, mais à cause des paroles. Mmh. À cause des paroles. Hein. Je ne doute pas, en plus, que ce soit de bons musiciens, on me l'a dit et tout ça. Mais moi, dès que ça commence et dès que le chant arrive avec ces paroles-là, je coupe immédiatement. Je ne peux pas écouter ça.
Et Bertrand Belin, par exemple, ça vous touche davantage ou c'est le même refus ?
Alors, Bertrand Belin, j'ai eu l'occasion de le voir. Je ne peux pas, pour les paroles, je ne peux pas. Je déteste l'étrangeté dans les paroles, l'étrangeté volontaire. Une étrangeté qui viendrait d'une façon de prendre les choses, mais une étrangeté volontaire, ce que je ressens comme volontaire, hein, parce que je ne suis pas du tout en train de dire qu'il... J'y arrive pas du tout. Ça, c'est aussi un écueil que j'essaie d'éviter. Cela dit, je dois dire que quand j'ai vu Bertrand Belin en concert, c'est un fantastique guitariste. J'ai été très, très impressionné.
Donc il n'y avait pas d'héritage français pour vous en rock. On pourrait citer Bachung quand même. On pourrait citer des gens comme ça.
On va rentrer dans le nerf de la guerre. Il y a Bachung et il y a Gainsbourg, quoi, grosso modo.
Voilà.
Bon. Évidemment, moi, j'ai été obsédé par Serge Gainsbourg. On en parle très souvent avec Sam. On parle très souvent même du dernier album dont on s'envoie des paroles par SMS. Bon,
tous des trucs bien dégueulasses.
Bien dégueulasses de la fin. Ça,
Yonder Arrest,
voilà. Et donc, moi, j'étais complètement obsédé par Gainsbourg quand j'étais plus gamin et tout ça. Et puis après, Bachung. Alors, je suis un très grand admirateur de Gainsbourg parolier. Gainsbourg musicien, enfin surtout parolier. Et ensuite, je suis un très grand admirateur de Boris Bergman. Ouais. Qui est donc... Mais ça emmène vers quelque chose qui est le jeu sur les mots. Les sonorités, les jeux de mots. Alors moi, Bergman, sincèrement, j'adore. Je considère qu'il a écrit des textes extraordinaires. Enfin, sincèrement, Vertige de l'amour, c'est surréaliste, drôle, on comprend tout alors qu'on ne sait pas ce qui se passe. Enfin bon, c'est absolument génial. La mère sup m'a vu venir... fantastique quoi, enfin vraiment c'est la Pléiade et donc je me dis ça c'est vraiment génial, mais c'est quand même des jeux, c'est quand même drôle et ou des jeux sur les rimes, les X, les X, prétexte, je ne veux, contexte, enfin vous voyez ce genre de choses. Et moi ça je me disais, d'une je le sentais pas, honnêtement je me sentais pas tout à fait capable de ça, et de deux je me disais mais ça a été fait à un niveau qui n'est plus du tout atteignable. Si vous vous mettez à rejouer avec des rimes en X, en X, bon, bah, y en a un qui l'a fait et il l'a fait pour toujours, quoi. Et Bergman, je pense que c'est inimitable. Donc j'ai cherché longtemps ce que, selon moi, je pouvais écrire sans être en train de copier ou sans être gêné par la copie, quoi.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman avec Jean-Pierre Montal et Sam Ramon qui nous parlent de leur dernier album sous le nom Les Mercuriales qui s'intitule L'exil loin d'Eslo. Et on va écouter tout de suite un premier extrait de cet album.
Tout finit bien puisque tout finit. C'est là assez de sagesse pour toute une vie. Mais on te demande ça va et tu réponds comme un lundi. Car on n'échappe pas au commerce des hommes, et c'est là une bonne nouvelle en somme. À un moment, même le pire des chagrins on ronne par la face nord. J'attaque cette nuit les deux pieds sur le rebord étroit de l'insomnie. Par la face nord j'attaque cette nuit. Je sens que dehors le siècle se rafraîchit. Il attaque ses phrases par je ne me cache pas. J'avoue ou on ne me la fait pas. Mais moi je l'écoute, je ne veux plus rentrer chez moi. J'ai cru que ce soir reviendrait dans la vitre par hasard ton reflet. Puis je suis parti prendre la 11 à Châtelet, par la face nord. J'attaque cette nuit. Je ne proteste ni ne déplore. À voix basse, je maudis. Par la face nord, j'attaque cette nuit. Je relis le triscore d'un paquet de biscuits. L'allure du Sherpa est la seule qui vaille entre le froid et la grisaille. À chaque pas entendre la neige crisser les nerfs, sentir un sol sous ses pieds. L'allure du Sherpa est la seule qui vaille. L'année dernière je te tenais encore par la taille. Je regarde la face nord sous le soleil briller. Je devrais être mieux équipé. Puisque tout finit.
La face nord des Mercuriales, vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman avec Jean-Pierre Montal et Sam Ramon qui vont nous raconter comment ça s'est passé l'enregistrement de cet album.
Bonne question.
Ça a débuté, on a commencé à enregistrer ce qu'on appelle des démos, donc à Ivry, dans un grand loft que louait le saxophoniste du groupe Stanislas de la Feuze et son ami. Et c'est un loft, c'est une ancienne usine, donc il y a très très haut de plafond, une très belle réverbe. On a enregistré, je crois, 4 titres, dont 2 qui sont sur le dernier album, qui ont été gardés. C'était en fin juillet 2024, c'est-à-dire juste après, quasiment juste après la sortie du premier album. On a vraiment enchaîné le truc directement. Et ensuite, la question s'est posée, à savoir où enregistrer, dans quel studio. Et on s'est dit, bah écoute, ça sonne très bien, on n'a qu'à faire ça ici. Donc on est revenu chez Stan, dans son loft à Ivry, et avec l'aide de Vincent Hiver, qui est l'ingénieur du son au studio Claudio.
Un des membres de Biche. En attendant Anna, ouais, de Biche.
Ouais, voilà. Il nous a enregistré, je crois qu'il y a 3 micros sur la batterie, à peu près. Il y a des micros d'ambiance qui ont été posés sur la mezzanine pour choper la réverbe. Et on a joué, on a commencé à enregistrer ce qu'on appelle l'os, c'est-à-dire la construction rythmique, guitare, basse, batterie. Voilà. Et ensuite sont venus s'ajouter des overdubs de guitare, de saxo, de flûte et de clavier, grâce à Sophie.
Ça s'est fait naturellement ou ça a été laborieux? Il y avait une évidence suite au premier album, où il y a eu des choix difficiles.
C'est un mélange des deux, d'évidence et de travail. Ça a duré 2 ans en tout, sachant qu'après les étapes que vient de décrire Sam, il y avait un passage chez Paul Rano, qui est ingénieur du son et qui a produit le disque et qui l'a mixé, et qui lui aussi a amené sa patte. Nous, au début, il y avait un parti pris, c'est pour ça qu'on est allé dans ce loft, et qui est une obsession assez forte chez Sam et moi, c'est vrai peut-être plus que chez les autres membres, c'est le son de batterie. On avait une vraie idée de se dire, il faut que la batterie sonne très naturelle, qu'on entende la salle derrière la batterie. C'était vraiment un vrai parti pris. Donc là, entre Vincent et Paul, ils ont chopé ça. Alors après, c'est un mélange des deux. Il y a une évidence parce qu'on tenait bien les chansons. On jouait bien,
ouais, ouais.
On les avait bien, on aimait ces chansons, je pense qu'on voyait ce qu'on allait assembler comme chansons sur l'album. Et après, c'est vrai, on va le dire pudiquement, mais il faut le dire, je pense, parce que ça va dans l'ambiance de cet album. Les 2 ans ont été pour tous les membres du groupe, 2 ans d'emmerdement maximum. Donc cet album est le reflet de coups durs,
ouais.
Déception, dépression.
Voilà. Oui, ça on peut le dire.
Donc, ouais. donc sans s'étendre là-dessus, ça a forcément imprégné la façon dont on a à un moment arrangé ce disque, dont on l'a guidé. C'était vraiment, sincèrement, 2025, particulièrement, ça l'année un peu pour tout le monde.
Ah oui, c'était le bouillon de 11 heures, absolu.
Le résultat est réussi et le son de batterie, pour le coup, est convaincant. Alors, vous êtes proche de Burgala, hein, ça s'entend. On pense aussi à Souvenez-vous de l'homme de Michel Houellebecq et Fred Lowe. Ça sonne assez 70 quand même, les années Pompidou. C'était encore plus vrai pour le premier album. Hein. Pour vous, c'était des années bénies au niveau politique, musical et architectural ?
Béni, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est des années qui ont marqué. Oui, moi, je me méfie tout le temps d'un effet de nostalgie comme ça qui donne l'impression que une période synthétisait tout ce qu'on voulait. D'une, on est dans les années 70, par définition, on n'était pas adulte, donc on n'avait pas d'emmerdement d'adulte. Ouais, et donc, évidemment, que ces années-là restent un peu marquées. Et ensuite, effectivement, quand on... Oui, quand je réécoute Medal ou le live at Pompeii, ou que quand je réécoute For Your Pleasure de Roxy Music ou Transformer, je me dis les 70s, ça devait être dément. Mais on voit bien qu'on est en train de prendre un prélèvement des 70s, donc je ne suis pas certain de ça. En architecture, bon, ça, moi, je suis un grand amateur d'architecture brutaliste, mais je vois très bien aussi les dérives qu'il y a eu à ce moment-là. Donc je fais très attention, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de cristallisation, disons, autour
vous
de...
Vous n'idéalisez pas une période, vous ne pensez pas que c'était mieux avant, par exemple?
Non, absolument pas.
Je dirais même que pour le rock français, le fameux truc dont on parle, aujourd'hui depuis 5 à 10 ans presque, on vit un sacré âge d'or. Je veux dire, il y a des gens comme Brian Magic Tears, il y a des gens comme Jean Felsine, qui est un fantastique songwriter. Il y a des groupes géniaux en permanence. Sam a fait partie, avant les Mercurial, d'un groupe extraordinaire qui s'appelait Entr'acte Twist, qui donnait des concerts ultra excitants. Enfin, sincèrement, il y a vraiment de quoi... le groupe Paris-Banlieue, les jeunes filles de Paris-Banlieue, c'est Jonathan Richman avec TV Personalities en français. C'est absolument dément. Alors moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a eu... qu'on soit obligé de regarder dans le rétro.
Il ne faut pas oublier qu'avant, enfin, si on dit avant, il y a quoi, il y a 30 ans, il y avait Noir Désir, l'horreur absolue. Donc bon,
avant, il y avait Taxi Girl, Marquis de Sade.
Oui, et puis Téléphone. Donc bon, voilà, il faut relativiser toujours le truc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes. Mais justement, il y a un choix qu'on n'avait pas forcément avant et que les disques n'étaient pas forcément trouvables.
Oui, et puis ça n'a jamais été aussi facile de faire de la musique. Il y a 30 ou 40 ans, ça coûtait énormément cher, ne serait-ce que d'acquérir un instrument. Ensuite, entrer en studio, c'était un budget faramineux. Ouais. Et puis, je ne parle même pas de la promotion et même des salles de concert qu'il fallait trouver, les tourneurs.
C'était infernal.
Donc la nostalgie, ce n'est pas votre truc.
Non, non. Ou alors, dans le sens, et vous avez cité quelqu'un de très important pour nous, qui est Bertrand Burgala, qui nous a beaucoup conseillé, qui est un ami avec lequel on parle très souvent de musique. Bon, là, tout le monde a dit à Bertrand, c'est les années 60-70. Moi, je ne trouve pas tellement. Bien sûr qu'il y a un référentiel, mais il l'a noyé dans d'autres choses. Il l'a complètement transformé. Et bien sûr qu'on voit sa passion pour la musique des années 60. Mais par exemple, quand on écoute très concrètement, très précisément Bertrand, on devrait surtout entendre ces harmonies très étranges qui ne sont qu'à lui. Après un accord, vous ne savez pas quel va être l'accord d'après parce qu'il est incroyablement surprenant. C'est ça qui fait... Alors qu'ensuite, il y ait une parenté avec sa passion pour Pink Floyd, sans doute. Mais moi, je trouve que les influences, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de jouer avec tout ça. C'est de les assumer franchement. C'est pas de donner l'impression que, tiens, on a trouvé ça tout seul. On y va franchement. Quoi. Je veux dire, nous, on est obsédés par Roxy Music et Funhouse des Stooges. Le sax free, le saxophone free, il vient de ces deux sources. Et voilà, simplement, on va le plonger dans autre chose.
Oui, dans votre album, il n'y a pas de solo de guitare, mais par contre, il y a des solos de saxo, et c'est lui qui a un peu le monopole de la violence, entre guillemets.
Il pourrait y avoir des solos de guitare, on l'en empêche. Ouais. Chaque fois qu'il en fait, on l'efface. Pas le guitariste, hein, mais
non, c'est vrai. Ouais.
Oui, on sent les influences de Coltrane, de Don Cherry ou de Ornette Coleman.
Complètement, et puis de... et puis de ce mariage un peu rare. Le saxophone, moi ce que j'adore dans le saxophone, sincèrement, c'est que d'une, jouer en live avec un saxophone, c'est extraordinaire. Alors ça vous catapulte dans une autre dimension. Et ce que j'adore, c'est que le saxophone, la frontière est ténue. Hein. Ça peut vite devenir casse-gueule et faire solo de saxophone Jackie Quartz. Quoi.
Ouais. T'aimes pas ça,
hein. Là, moi, j'ai un problème avec le solo de sax. Cela dit, le solo de saxophone de la fin de Walk on the Wild Side reste un grand moment. Tout est question de savoir-faire. Mais j'aime bien cette idée. Et par exemple, moi, je trouve, enfin, un des passages dont je suis le plus heureux dans notre disque, c'est la fin sur l'exil loin des slow, où Stanislas fait un solo de saxophone sur un slow. Là, gros, prise de risque, on pourrait basculer très vite dans le cheesy. Je crois qu'on ne le fait pas, mais voilà, j'aime bien. C'est, le saxophone, c'est tout est question de point de vue, de vision. Il faut savoir comment le prendre.
Vous êtes écrivain, on l'a dit. Vous avez reçu des prix, notamment le prix des Deux Magots pour La Face Nord. C'est quoi la différence entre écrire une chanson, écrire une scène ou un paragraphe de roman ?
Ce qui m'a débloqué pour écrire des chansons, c'est quand j'ai compris que je pouvais les écrire comme des romans, en fait. Qu'il pouvait y avoir des personnages qui ne sont pas moi, avec un point de vue, et même des dialogues. Je prends des phrases de dialogue dans mes chansons. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah, il y a moyen de faire ce truc que j'aurais dû comprendre avant si j'avais été un peu plus affûté, parce que Dylan le fait, Laurie le fait, donc j'aurais pu comprendre tout ça. Mais en français, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait pas mal d'écrans où je me disais, ben non, on ne peut pas faire ça. Enfin, je veux dire... quand vous entendez une phrase comme « J'ai demandé à la Lune », qui pour moi est une phrase vraiment atroce, je veux dire, je comprends rien à ce truc, je vois pas ce que ça veut dire, j'ai pas envie d'écouter la suite de ça, et que vous voyez comment ça marche, vous vous dites « Non mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire en français ?» Donc à un moment, je me suis remis sur le français, et comme j'avais écrit plusieurs romans, d'un coup j'ai écrit un peu comme un roman. Et grâce au Mercurial, quand j'arrive avec mes textes et que les Mercurials jouent, ça impose forcément une structure. On a répété hier soir, j'avais un texte de 4 strophes au début, de 4 couplets. Ben, les Mercurials l'ont joué d'une telle façon que j'ai réparti les couplets différemment. J'en ai enlevé un et j'en ai fusionné deux. Pour qu'on rentre. Donc, à partir de là, il y a comme un montage qui se fait comme une réécriture. Mais la base, c'est vraiment que j'ai en tête un personnage, son point de vue et une situation. Et ça, c'est pour moi, ça part de la même chose. Après, il y a une exigence avec la chanson que Dylan a... complètement résumé à la perfection dans son discours pour le Nobel, qui est qu'il disait, c'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie, c'est ce truc bizarre qui est qu'à la fin, c'est chanté, donc des mots seront accentués, donc des mots reviendront, donc l'idée de faire des répétitions, moi je fais beaucoup de répétitions dans les chansons, chose que je ferais pas dans des romans, mais c'est pas grave, il y a une question de sonorité, des choses où vous allez accentuer, donc là se passe un autre truc que moi j'adore travailler et c'est fantastique de le travailler avec le groupe, sincèrement, parce que eux-mêmes d'école, accentuent, ont un moment où ils jouent plus dur, alors je peux totalement jouer avec ça. Donc ça, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un lien de parenté très fort. Par exemple, pour cet album, mon point de départ, je l'avais écrit, j'avais écrit un disque, alors qu'il soit des chansons écrites par le Dylan de 1974, relues par le romancier John Cheever et jouées par Roxy Music. Voilà, je m'étais dit, voilà la direction, donc j'attaque. Et après, je m'étais dit, il faut 3 points de vue. Je voulais écrire sur le sentiment amoureux, mettre 3 points de vue. Un homme en couple, un homme qui a été quitté, et une femme. Et j'ai commencé à écrire ces chansons, les 3 points de vue. Et ils sont toujours là, les 3 points de vue, en fait. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans la pop et dans le rock, c'est le concept album. C'est un truc que je trouve vraiment casse-gueule au possible. Donc je me suis dit, on oublie ces 3 points de vue. Au début, je m'étais même dit, vous voyez, à côté des chansons, on mettra le nom du personnage, quasiment.
Non, on ne peut pas livrer l'opéra. Donc.
Oui, c'est pas Tommy, quoi. J'ai tout enlevé, mais j'ai gardé les points de vue. Ce qui fait que je pense qu'au fond, les différentes approches peuvent être assez universelles, peuvent parler, puisque j'avais des personnages en tête.
Sam, est-ce que des fois les membres du groupe disent à Jean-Pierre, non, c'est trop littéraire, là, il y a trop de texte, là, c'est trop poétique?
Non, déjà, on est à moitié sourd, donc on n'entend pas ce qu'il raconte.
Ce qui
se passe, pour vous dire franchement, on n'a pas à intervenir en fait, dans ces textes. Je crois que je suis intervenu une fois, c'était lorsqu'on était en studio, lors de l'enregistrement du premier album. On a changé quelques phrases et quelques trucs. On a trouvé ça vraiment débeauté, et c'est tout. Voilà. Les morceaux sont construits. Par rapport au texte, par rapport à la longueur, aux strophes, c'est une métrique, voilà. Mais tout ce qu'il y a au milieu, on le, on le perçoit, si vous voulez, à la fin, quand le morceau est terminé. Et encore, le morceau terminé, ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de travail. Il n'est jamais vraiment terminé puisqu'on va toujours le transformer. Mais et les paroles aussi, d'ailleurs, tu peux changer, Jean-Pierre, oui. les paroles assez régulièrement. Voilà, mais c'est un jeu, si vous voulez, c'est un jeu. Donc nous, on n'intervient pas là-dessus, non, pas du tout.
C'est toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Jean-Pierre Montal et Sam Ramon du groupe Les Mercuriales. Et on va écouter un second extrait de l'album.
Soit la nouvelle, bonne ou mauvaise, j'écarte grand les bras et je bondis de ma chaise. Ma bouche s'arrondit et mes yeux écarquillés veulent tout dire sans un mot, comme une star du muet. Pour amuser que je trébuche ou glisse, pour me faire remarquer d'une lointaine admiratrice. Une Musidora qui me regarderait, puis me fuirait par les toits comme une star du muet. Quelques mots sur un carton suffisent et moi, je ne refais jamais la prise. Naïf pour croire au pouvoir des mots, alors que le noir et blanc de langue en dit déjà deux fois trop. Si j'acceptais de te revoir, ne serait-ce que pour un café, je nous ferais ce cadeau et resterais muet. Quelques mots sur un carton suffisent et nous éviterons ainsi bien des méprises.
Les stars du muet du groupe Les Mercuriales, que nous recevons aujourd'hui en la personne de Jean-Pierre Montal et de Sam Ramon. Vous êtes toujours dans Aligre FM, La vie est un roman sur Aligre FM, avec Frédéric Gournay qui interviewe nos invités aujourd'hui. Vous chantez qu'il faut savoir tout lâcher et écrire comme ça se prononce, mais également qu'il faut être naïf pour croire au pouvoir des mots.
Oui.
Comment vous assumez ça en tant qu'écrivain
cette
et
contradiction,
parolier
Non, mais ça, sans faire trop pédant, je crois qu'il y a une recherche de naturel dans l'écriture, chez moi, pardon, hein, bien sûr, parce qu'on peut écrire tout à fait, il y a mille façons d'écrire des romans, des textes et tout ça. En tout cas, chez moi, il y a une recherche de naturel. J'essaye que les phrases, d'ailleurs parfois je me rends compte, et on se fait souvent la blague entre mercuriales si j'ose dire, que certaines phrases peuvent être complètement naturelles dans une conversation, elles peuvent passer comme ça. Alors moi je recherche ça un peu, de lâcher la bride quoi, qu'on ait l'impression que la phrase n'ait pas été écrite. Il y a une anecdote, c'est une phrase plutôt de François Truffaut que j'aime beaucoup. Truffaut, il dit que le cinéma est un art à part parce que la caméra peut attraper des choses qui échappent au réalisateur, au technicien et même à l'acteur lui-même, puisqu'il peut se passer un hasard. Alors je sais que c'est possible en musique parce que des choses peuvent nous échapper totalement. Sur l'album, on en parlait hier avec Sam.
C'est le cas.
Il y a des bruits, il y a des choses, on ne sait même plus comment on a pu les faire. En revanche, quand on écrit, c'est rare. Je veux bien que par moments ça vous échappe, enfin c'est rare, il y a une espèce de contrôle un peu conscient. Tout le monde ne pratique pas l'écriture automatique, Dieu merci. Et donc j'essaye, moi, qu'il se passe un peu un truc comme ça, c'est-à-dire que parfois des paroles soient presque des paroles de conversation. Donc on a l'impression que ce soit quasiment pas écrit. Quoi.
Voilà. Vous reprenez des poncifs, des truismes.
Oui. Oui, oui, j'ai aucun problème avec ça. J'adore utiliser des proverbes, les détourner. La méthode canadaire commence par un détournement de proverbes. Qui trop ressasse, mal étreint. J'adore les proverbes, j'adore les clichés, j'adore les lieux communs, quand ils sont, qu'on peut réutiliser. Quoi.
Mais vous les déplacez, vous les décalez, vous en faites un autre usage.
Oui, voilà, ou je les mets dans la bouche de quelqu'un qui... par exemple, complètement épuisé et harassé par sa vie, dit un lieu commun. Ça prend une autre dimension quand le type est au bout du rouleau. Enfin, voilà.
L'album reçoit un excellent accueil avec quelques articles dithyrambiques. Question un peu idiote, mais qui me vient quand même à la bouche. Ça vous touche, ça vous fait plaisir ou vous y attendiez?
Non, on s'y attendait pas, mais moi ça me fait plaisir.
Ouais, ouais. Moi aussi, oui. Mais on s'y attend jamais. On s'est pas dit tiens, ça va marcher. Tiens, on va faire. On était plutôt en train de se dire putain, on va se prendre un râteau monumental parce que qui va écouter ça? C'est quand même pas. C'est pas le tirelipinpon si vous voulez. Donc bon, c'est un peu spécial. C'est un album assez nocturne, comme on se plaît à le dire, mais qui est pour l'instant, parce que l'album est sorti quand? Vendredi dernier, oui. Le 29 mai 2026, qui est déjà autant de critiques positives, ben ça nous conforte dans l'idée qu'on a quand même bien bossé. Quoi. Voilà.
Oui, c'est un album un peu hors du temps. À contre-temps, en tout cas, intempestif.
Ouais, ouais. On peut l'écouter pas n'importe quand, mais à des périodes assez spéciales de la vie.
Alors Jean-Pierre Montal, vous réussissez l'exploit d'être invité à répondre à des interviews dans des médias très différents, voire radicalement opposés. Hein. On vous retrouve à la fois dans Valeurs Actuelles et sur Aligre FM.
Ah oui.
Donc c'est une victoire pour vous?
Oh, une victoire, non, c'est un bien grand mot. Non, déjà, dans ces deux médias et tout ce qu'il y a... Généralement, je rencontre des gens qui ont lu mes livres ou écouté mes disques, vraiment. Et donc, quand j'ai une invitation, moi, je me rends compte que c'est rarement une invitation parce que, oh là là, tiens, il a sorti un truc, tiens, on va parler de lui. Ou... Bon, voilà, je vois plutôt des gens qui sont vraiment passionnés par mes livres ou qui aiment mes disques, ou en tout cas qui ont envie d'en parler, plus que passionnés, en tout cas qui se disent, tiens, on va parler de ça. Ensuite, moi, je fais des livres sans politique, je veux dire, sans sujet politique. Si quelqu'un m'appelle et me dit, j'ai envie de parler d'un de vos livres... Moi, j'en parle. Alors après, il y a plein de ramifications dans la façon de parler d'un livre. Mais je vous dis, moi, je suis tombé dans tous les médias, je suis tombé sur des gens qui lisaient mes livres et qui, à la fin, allaient dans le fond du livre, en fait, vraiment. Donc j'ai eu du bol.
Sam, est-ce que les mercuriales sont engagées politiquement? Est-ce qu'il y a des, des débats, des conflits, des affrontements.
Alors,
politiques.
Récemment, pour tout vous avouer, j'ai signé ma première pétition numérique, ma première pétition tout court, donc en quasi 60 ans de vie, qui était pour la remise en rayon dans les supermarchés du salsifis. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'adore les salsifis et je ne les trouvais plus. Il y a eu une pénurie. Donc, c'est la première fois. Je crois que c'est mon seul acte vraiment politique.
Mais je crois que dans les Mercuriales, l'avantage d'être nombreux, on a un groupe de 7 personnes, ce qui nous apporte plein de désagréments, parce qu'il y a plein de gens qui disent « vous ne tournerez jamais ». Moi, je dis toujours qu'on est le produit de luxe du rock. À l'époque où le grand truc, c'est de faire tourner un gars et un laptop, bah, nous, on arrive et on dit « on est 7 ». Voilà.
Et on n'a pas de bande.
On n'a pas de bande, et voilà. Et donc, un des avantages d'être 7, c'est que je pense sincèrement, oui, je pense qu'on peut le dire, on couvre à peu près... Sans aller jusqu'au bout, on couvre pas mal d'options politiques. Vraiment, il pourrait y avoir des engueulades plus marquées que ça, vraiment.
Question incontournable, vous parliez de bande tout à l'heure, Sam. Oui. L'IA en musique, ça vous inspire quoi? Je sais que Jean-Pierre Montel, vous avez milité contre l'IA, vous avez même tracté contre l'IA.
Oui, ça a été il y a une dizaine d'années, ça a été un de mes derniers engagements et un engagement très fort au sein de l'Association française contre l'intelligence artificielle, la FCIA. J'ai tracté à la fête de l'UMA contre ça, que je considère être une
barbarie.
Catastrophe totale, une barbarie, un fléau. Accueilli évidemment comme d'habitude par le fameux « on va pas rater le train du progrès » où je me souviens très bien. À l'époque, on me disait quand le train est arrivé, vous auriez été contre vous. Voilà. Maintenant, je suis sorti un peu de tout ça parce que moi, mon problème, c'est que quand je m'engage pour quelque chose, ça me mange totalement et je deviens très méchant. Donc, il faut que je m'écarte un peu. Donc là, je dis, vous verrez bien, les gars. Et voilà. Et d'ailleurs, mon avis compte très peu. On voit qu'il y a des grands pontes de la Silicon Valley, d'ailleurs, des grands pontes de science qui disent c'est de plus en plus mal barré. Je me souviens très bien d'une discussion avec un grand spécialiste, un type vraiment très, très, assez haut et qui faisait beaucoup de choses dans cet univers que je ne nommerai pas, mais qui m'avait dit il trouvait ma position un peu trop radicale. Parce que moi, je disais simplement, c'est simple, interdiction totale. Voilà. Et donc, il me disait « impossible », sans quoi il n'avait pas tort. Et donc, on parlait de ça. Et je me souviens très bien que quelques années plus tard, est sorti, vous savez, la première fois où est sorti vraiment un peu publiquement ChatGPT, quand on disait « ah oui, tiens, je vais essayer ». Enfin, vous voyez, ce début-là. Et je lui avais dit « ah ben là, c'est parti ». Et il m'avait dit « je l'ai testé hier, cette version ». Et il était très, très capé sur le sujet. Il avait dit « bon, ça, un truc qui tournait comme ça, je l'aurais vu plutôt dans 10 ans, pas maintenant. » Donc déjà, le plus grand spécialiste avait pris 10 ans dans la vue par rapport à la version la plus lambda du truc. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis je sais qu'il y a plein de gens, je ne pense pas détenir la vérité. Je pense que sur la technologie, l'être humain a une attirance vers sa perte et sa fin via la technologie. Et je pense qu'il l'a prouvé indéfiniment.
Tous les musiciens que j'ai reçus, Mirwais, Arnaud Robotini, Fred Lowe, n'ont conservé aucune appréhension par rapport à leur création. Pour eux, c'était comme l'apparition de la boîte à rythme ou du sampler, c'était simplement un instrument dont il fallait savoir se servir.
Oui, sur la création, je ne dirais pas que, après tout, quelqu'un peut l'intégrer, peut en faire quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas là-dessus que moi je m'inquiète. C'est tout à fait, c'est différent, c'est socialement. Voilà,
Oui, mais si ça permet de faire des bonnes choses en création, pourquoi ça ne permettrait pas de faire des bonnes choses, par exemple, je vais me faire l'avocat du diable, en science, en médecine,
bien sûr.
Nouveaux traitements
Alors, je sais que ma position
même, voilà.
Je sais que ma position radicale ne tient pas, parce que justement, avec l'exemple sur la santé et sur la médecine, bien sûr qu'il va se passer des choses extraordinaires et que ça vaudra le coup. Je pense que le coût social et le contre-coût social dans des sociétés qui vont déjà très mal et qui ne parviennent absolument pas à intégrer va être tellement colossal que le problème, ce ne sera pas d'avoir mal aux dents.
Oui,
d'accord.
Mais gérer une société d'idiots.
Et donc en musique, vous bannissez tout recours à la technologie, le numérique,
non,
vous servez du numérique quand même.
Oui, bien sûr.
Oui, oui, non, non, et puis...
Je suis assez contre cette espèce de manie qu'ont les groupes de se remettre à l'analogique, parce que au bout du compte, qu'est-ce qu'on a ? On a un fichier numérique. Donc le coût du disque, du vinyle qui a un son plus chaud, ça a peut-être permis à des voleurs de le vendre 40-50 euros de plus que ce que ça ne vaut. Mais c'est à peu près tout. Et ça a un son beaucoup plus... peut-être plus chaud, mais moins intéressant que le CD, où là, on a vraiment le son qui sort des enceintes du studio, le véritable son de ce qu'on a voulu enregistrer. Donc moi, je suis pour le numérique. Je suis plus pour le CD que pour le vinyle, personnellement.
En revanche, on ne traque pas les erreurs. Vous savez, on ne recale pas tout.
Non.
Quand on écoutera le disque, il y a quelques petites choses qui... Mais bon, ça fait partie un peu de la façon de jouer quoi, du groupe et de l'atmosphère du disque.
Ouais.
Oui, c'est ça, c'est ce que défendent les amoureux de l'analogique, c'est déjà ça limite les prises, ça limite le champ des possibles, parce qu'on est vite perdu dans l'obsession de la perfection aussi. Ça s'entend dans votre groupe, effectivement, c'est très dans cet enregistrement-là, dans cet album, L'Exil loin des slow, donc c'est très chaleureux le son déjà, et ensuite, effectivement, c'est très vivant, c'est très... C'est assez libre dans l'approche.
Oui, le groupe bouge, voilà, je suis sûr qu'on mettrait un métronome, on verrait des changements de rythme qui ne sont pas forcément prévus.
Ça, c'est sûr.
Mais on verrait aussi que ça contribue à l'intensité du morceau. On croit tous beaucoup à ce côté, on dit live, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est qu'à un moment, on n'est pas obligé de tout reprendre, de tout recaler, parce qu'il faut que le morceau morceau exprime ce qu'il a exprimé, grosso modo.
Oui, et puis comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de nettoyage, si vous voulez, profond des pistes comme ça se fait aujourd'hui. Mmh. Si vous écoutez l'album au casque, par exemple, vous allez entendre un moment des rires, quelqu'un qui éternue, un truc de papier froissé. On ne sait pas ce que c'est. Quand je dis rire, éternuement, c'est peut-être autre chose. On ne sait pas. Ce sont des espèces de fantômes qui sont sur le disque.
Je voudrais ajouter un dernier point sur l'intelligence artificielle, si vous me permettez.
Bien sûr.
C'est qu'il n'y a pas si longtemps, on m'a parlé d'une réunion d'écrivains, et puis les gens disaient, oui, on va pouvoir gagner plus, l'éditeur n'aura plus à faire de couverture, parce que l'IA le fera. Et j'ai noté que dans tout le débat sur l'IA, j'ai noté que, quelle que soit la catégorie, on se dit toujours que c'est la catégorie d'à côté qui va être remplaçable. Et je trouve que c'est une grande logique de réflexion actuellement. Ah oui, mais ça va supprimer ce métier-là. Mais ce métier-là, il était fini, sous-entendu le mien, il n'était pas fini. Quand il y a une logique comme ça qui est en marche, personne n'y échappe.
Vous pensez cette logique aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la Gestapo vient arrêter des gens, dit « c'est pas moi, c'est les voisins ».
Oui, on a toujours l'impression qu'en désignant quelqu'un comme la victime logique quelque part, alors là c'est encore plus grave et bien sûr bien plus tragique dans ce que vous dites, mais moi ça m'a beaucoup marqué quand j'ai discuté avec des gens il y avait déjà 10 ans, il y avait des gens qui me disaient « oui, je comprends, pour ce métier-là ça va être très dur », alors que le type en face de moi écrivait des textes, ça va être aussi très très dur pour lui, enfin voilà.
Vous avez recours, pour revenir à la musique, vous avez recours, je crois, pas mal à l'improvisation dans la composition.
Ouais. Oui, oui.
Donc ça veut dire beaucoup de répétitions et beaucoup de buffs, comme on dit.
Non, des buffs, non, mais des répétitions, oui.
Oui, la chanson est là. Moi, j'arrive avec la chanson, avec les accords et le texte. On commence à la jouer. Donc il n'y a pas de buff autour d'une... Il y a une chanson, mais cette chanson, alors, elle devient...
On s'arrête très souvent. C'est ça aussi. C'est, dès qu'il y a une idée, c'est « Ah, là, attends, c'était pas mal, on n'a qu'à la refaire comme ça tout de suite. » Donc en fait, les sessions qui ne sont pas des buffs peuvent durer, je ne sais pas moi, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais pas plus. C'est vraiment 5 minutes, c'est quand le morceau est déjà construit, il y a déjà une construction solide. Mais sinon, c'est un travail permanent, on s'arrête tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et après, vous voyez le saxophone, par exemple, dont vous parliez. Là, c'est des parties, on lui laisse parfois, on lui dit, alors là, tu as le chant, le chant libre. Voilà.
Vous avez fait un concert récemment ?
Oui,
la station. Là, je n'ai pas pu assister. Il y a d'autres concerts qui sont prévus ou pas ?
À l'automne, il y aura d'autres concerts, oui. Il va y avoir quelques dates. Alors, comme rien n'est sûr, mais en tout cas, il y aura une date à Bordeaux qui se précise. Il va y avoir une autre date à Paris. Peut-être en juillet, peut-être... un showcase, voilà quelques dates. Mais comme je vous disais, on a un groupe difficile à faire tourner. 7 personnes, c'est 7 ventres à nourrir.
Merci beaucoup Jean-Pierre Montal, merci beaucoup Sam Raymond de nous avoir parlé des Mercurial,
merci
ce
Fred,
dernier
merci
album qui s'appelle L'Exil loin des slow. On peut dire le nom du label.
Bien sûr, le Pop Club.
Pop Club.
Et en cassette aussi, sortie cassette.
Sortie cassette.
Sur le label Langue Pendue.
D'accord.
De Renaud Sachet.
Très bien, merci à René qui a assuré la régie et le son. Alors, si vous voulez soutenir la liberté et l'indépendance de Radio Aligre, vous pouvez le faire. Vous allez sur le site, il y a une rubrique « Appel aux dons ». Vous cliquez, c'est évidemment déductible d'impôts. Et comme ça, nous, ça nous aide à rester ce qu'on est. La semaine prochaine, nous rendrons hommage au fondateur de cette émission qui nous a quittés en avril dernier, Yves Tanret, écrivain et historien d'art, en présence de Jean-Michel Lyoyotte et de Alain-Amaric Liot. À la prochaine à toutes et à tous.